Vous écoutez
RMC.
RMC.
Il court, mais il sprint vers Pulido. Il lui met un coup de poing monstrueux. Non, mais c'est n'importe quoi.
Bah, écoute, moi, je trouve ça pas non plus scandaleux.
On est vraiment dans une société de fragiles, sérieux, quoi.
Non, mais je comprends Polo et Daniele. Après, je te comprends toi aussi et je comprends tout à fait Edgar.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous et bonjour à toi qui nous écoute en podcast. C'est Génération After spécial Drôle de Dame. La seule émission à la radio française qui parle pendant 2 heures des championnats étrangers, même à 10 jours d'une Coupe du Monde. Pour l'Espagne, une drôle de dame qui va vivre sa première Coupe du Monde, pas en tant que journaliste, mais en pleine conscience. Tu vas voir Edgar, il va te rester plein d'images quand tu seras grand. Bonsoir Edgar.
Salut Nico, salut tout le monde, c'est à peu près ça.
On va t'accompagner pour découvrir tout ça, tu seras sur place, en plus c'est merveilleux. Pour l'Allemagne, une drôle de dame qui dira après chaque match de cette Coupe du Monde, ça ne vaut toujours pas le Mondial 74 ou 82. Bonsoir Paulo Breitner.
J'ai jamais dit que le Mondial 74 était...
82 de toute façon, quel est ton Mondial préféré?
C'est 82. Tout le
82,
monde
bien sûr.
C'est pas mon choix, c'est l'histoire.
C'est l'histoire.
Bah ouais.
D'accord, on pourra en débattre, ce soir on pourra en parler d'ailleurs, ce soir, en deuxième heure. Pour l'Italie, une drôle de dame. Bonsoir Daniele.
Bonsoir, bah merci Nico.
Je sais pas quoi te dire, mon pauvre Daniele.
Bah, parfois, de rien dire, c'est le mieux de dire.
Et pour l'Angleterre, une drôle de dame qui sait pertinemment que l'histoire finira par un tête contre tête. Tourelle Bellingham, une élimination en quart de finale et Harry Kane, le genou à terre. Bonsoir Julien Laurence.
Salut Nico, t'as peut-être raison.
Tu t'es préparé à ça ou pas? Toute éventualité,
bien sûr.
Ouais, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr. Je me prépare à toutes les. Avec eux, tu sais jamais ce qui va se passer. Donc, bon. Comme ça.
Bon, de toute façon, maintenant t'en fous, hein. T'es champion d'Europe, t'es finaliste.
Double champion d'Europe, s'il te plaît.
T'es double champion d'Europe, exactement. T'es champion d'Angleterre aussi, un petit peu quand même. Tu peux
tout à
on
fait,
peut le
tout
dire
fait,
quand
tout
même.
Tout,
tout va bien.
T'es un
pour
peu tiraillé samedi quand même. Ouais.
Bon, l'été, la saison est déjà réussie. Ce soir, pas de 3 points. C'est une émission particulière post-saison de club et pré-mondial. Dans un instant, comment le nouveau sacre du PSG est commenté chez vous? L'actu Mercato, Anthony Gordon au Barça, pourquoi? Le départ de Konaté de Liverpool, pour où? Qui pour succéder à Slot? Adrien Rabiot suivra-t-il Allegri à Naples? À 18h, à la relance. Dans son ancien club à l'Eintracht Francfort. Et donc, dans la deuxième heure, spéciale Coupe du Monde, l'actu de vos sélections et ces questions. Qui est favori? Votre favori pour le mondial? Qui sera votre meilleur joueur? Selon vous, votre révélation? Également du tournoi, on va jouer ensemble ce soir, 32-16 ouvert avec les drôles de dames. Et à 22h, la dernière date de l'immense tournée de l'After, les 20 ans, qui se ponctue dans le Nord. Bonsoir Gilbert.
Salut à tous. Et oui, on est à Valenciennes ce soir, au cinéma Pathé de Valenciennes pour la dernière étape de tournée des 20 ans. On a fait une bonne dizaine de villes maintenant et on est ravis d'être à Valenciennes où il y aura beaucoup de monde ce soir au cinéma Pathé. On va parler évidemment du PSG, revenir sur le week-end et la suite, jusqu'où peut aller ce PSG. Puis l'After va répondre à Emmanuel Macron qui a un peu parlé de nous sans nous citer, à Nasser Al-Relaifi qui pense que le PSG est désormais le club de toute la France, et puis Olivier Létang sera avec nous, on n'est pas très loin de Lille, ici Olivier Létang qui nous présentera son nouveau coach, qui nous parlera Mercato, la préparation de la Ligue des Champions. Donc beaucoup de PSG, beaucoup de Lille et de la Coupe du Monde ce soir. On parlera notamment des problèmes de dos de Saliba, et puis un peu de Valenciennes aussi quand même, parce que Valenciennes c'est Steve Savidan, c'est José Cèze, mais c'est aussi Georges Ebruchaga.
Jacques Glassman également. Merci Gilbert, à l'After à partir de 22h jusqu'à minuit. C'est parti pour les drôles dames. Alors on va revenir quand même quelques minutes sur la finale de la Ligue des Champions remportée par le Paris Saint-Germain, savoir comment elle est commentée, perçue chez vous, quelles conséquences il peut y avoir chez vos clubs majeurs également, quand c'est une confirmation comme celle-ci, dans la forme, dans le jeu, sur le fond également. On va en parler ensemble. D'abord, toi Edgar, en Espagne, qu'est-ce qui est mis en avant deux jours ou sur le lendemain de la victoire du Paris Saint-Germain?
Le succès de Luis Enrique, évidemment. Je pense, oui, que ce troisième titre en Ligue des Champions pour lui, et surtout deuxième consécutivement, ça le place dans une autre catégorie dans l'esprit des gens. Ça le place vraiment chez les génies, chez les très grands entraîneurs du 21e siècle. Et je pense que personne n'avait besoin de ce titre-là pour le placer déjà parmi les meilleurs. Mais là, peut-être qu'il passe encore dans une autre catégorie. Et en tout cas, j'ai l'impression qu'en Espagne, c'est vu comme ça. Beaucoup ont rappelé notamment, et ce qui a beaucoup tourné ces derniers jours en Espagne, c'est cette fameuse vidéo, vous savez, dans son documentaire où il dit l'année prochaine, quand Kylian Mbappé sera plus là, je vais contrôler toutes les situations. Et là, tu te rends compte que derrière, il gagne deux Ligues des Champions. Donc ça a beaucoup fait réagir en Espagne. La vidéo est ressortie, a énormément tourné. Et pour les Espagnols, c'est aussi le symbole du succès d'une philosophie de jeu, d'une philosophie espagnole. Et c'est aussi quelque part, même si c'est pas un club espagnol, la réussite du foot espagnol, parce que il y a cette patte Luis Enrique, parce qu'en face aussi il y avait Mikel Arteta. On l'a dit la semaine passée, les Espagnols sont très fiers d'avoir autant d'entraîneurs qui ont réussi cette saison.
Oui, et en même temps, Edgar, les Espagnols sont contents de plus l'avoir comme sélectionneur, Luis Enrique.
Oui, aussi, mais quelque part, mais oui, mais parce que ça se passait moins bien aussi avec l'Espagne, parce que je pense que aussi son personnage, c'est plus compliqué pour une sélection, mais c'est la confirmation, en fait, que c'était pas juste un one shot, entre guillemets, avec le Barça, avec des très grands joueurs. Là, il a construit son équipe de A à Z, il fait quelque chose de fou, et vraiment, en Espagne, ça a été énormément suivi, et maintenant qu'on a analysé, on va dire, le succès de Luis Enrique, on regarde son propre championnat. On se dit qu'on a envie de voir le Barça rapidement essayer de rivaliser avec ses joueurs. On se demande ce qui leur manque aussi pour arriver à ce niveau-là. Et on commence, côté madridien, à avoir un petit peu peur, à se dire on espère quand même que le PSG va pas aller en chercher trois d'affilée pour
vraiment aller, ça c'est une inquiétude du Real Madrid.
Non, mais je pense pas, supporters en tout cas, qui se disent ouais. C'était quand même ça fait quand même bizarre de voir une autre équipe peut-être créer une dynastie, parce que on avait l'impression que ce genre de choses c'était aussi réservé à des clubs comme le Real Madrid, comme le Barça, qui étaient les rois d'Europe. Maintenant, ce sont plus les rois d'Europe. Il y a d'autres équipes qui mènent la danse. Et je pense que c'est un beau challenge maintenant pour le foot espagnol de montrer, OK, c'est toujours la philosophie espagnole qui domine l'Europe. Mais il faut aussi que ça soit les clubs maintenant qui rivalisent avec ce genre d'équipe, avec le PSG, avec le Bayern dans les prochaines années.
Ta question également. Polo, toi, est-ce qu'on traite la victoire du PSG comme la victoire d'un club français? Je te pose la question, je me pose la question également, ou comme vraiment une équipe tellement à part en France, en Europe, qu'il est difficile de l'identifier, quoi, sur le plan national.
Je vais rester sur le terrain des journalistes allemands, parce que j'ai pas vu la finale. Chez Kicker, ce matin, l'information a été traitée en page 30 et 31.
Waouh.
Donc, c'est relayé tout au fond, en gros, avec deux très beaux articles, d'ailleurs, un sur Arsenal, qui paye un petit peu la stratégie, on va dire, mise par Arteta sur les derniers mois. Et puis, par contre, à l'inverse de ce que vient de dire Edgar, les Allemands sont persuadés que le PSG peut créer une ère et que ça va être très dur de revenir au niveau de ce PSG-là, puisque y compris lors de la demi-finale contre le Bayern, la différence, c'est pas qu'il y a une équipe qui est forte offensivement, c'est qu'en face, il y a une équipe complète. Et Luis Fernandez a fait une interview dans la Süddeutsche en disant ce qui est intéressant avec cette équipe, pourquoi on l'aime, cette équipe du PSG, c'est qu'elle est aussi bonne, on l'aime quand elle a le ballon, mais on l'aime aussi lorsqu'elle n'a pas le ballon. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas de football total comme l'Ajax des années 70, mais de football complet. En Allemagne en tout cas. Et donc c'est là où on est persuadé, et c'est là le défi pour le Bayern, c'est-à-dire, c'est marrant qu'en Allemagne, ils n'aient pas parlé de ça, mais les deux seules défaites du Bayern en Ligue des Champions sont les deux seules défaites face aux deux finalistes. Donc est-ce que ça veut dire que contre une équipe, entre guillemets, je mets trop défensif, ce qui n'était pas le cas lors du match aller, le 3-1 à Londres face à Arsenal, le Bayern de compagnie ne sait pas comment faire, et surtout ils ont été dépassés lors du match retour par une équipe beaucoup plus complète. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de boulot pour non pas aller en demi-finale, mais aller chercher.
Est-ce que tu es d'accord avec ce constat, franchement Polo? Est-ce que moi, la marge est importante entre le Bayern par exemple et le PSG? Tant que ça.
Moi, j'oublie pas que le PSG menait 5-2. C'est-à-dire, tu mènes pas 5-2 comme ça, quoi. C'est-à-dire que même s'il y a eu des occasions dans tous les deux, ça a été ce match au fou qui a fini à 5-4. Je veux dire, 5-2, t'es quand même proche du ravin lorsque tu es le Bayern ou n'importe quelle équipe. Et on va dire, c'est presque le PSG qui permet à Upamecano, si même moment ne fait pas défaut, de revenir à 5-3, puis ensuite ça le 5-4. Mais le match retour est très intéressant parce que au-delà, peut-être, je vais rapidement d'arbitrage qui reste quand même un problème en Europe du football,
sans le mettre tout en haut, sans le mettre tout en bas. Il y a un vrai problème au niveau footballistique, au niveau de l'arbitrage, je pense, en Europe, parce que ça va trop vite. Je pense pas qu'on ait les bonnes solutions. On l'a trop compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, le PSG peut aller chercher une troisième Ligue des Champions, mais c'est la question de la motivation interne et du vestiaire et de Luis Enrique et des joueurs. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, je pense qu'on va en parler pendant les deux heures, Diomandé n'est pas annoncé au PSG, mais on sait qu'il y a des négociations. Mmh. Si tu commences à aller chercher des joueurs qui sont déjà l'avenir du football européen, et du football ivoirien évidemment, ça risque d'être compliqué pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que je trouve assez extraordinaire dans ce PSG-là, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont matures et qu'ils ont pris la chance, entre guillemets, du Real d'il y a quelques années.
Tout à fait. Oui, la chance en plus de la structure, collective, du discours, de la motivation, de l'état d'esprit.
Ils arrivent à s'adapter. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans cette équipe du PSG version Luis Enrique, et donc pour les détrôner, ça va pas être évident.
Julien, est-ce que tu faisais partie de ceux qui se disaient samedi soir pendant le match, après l'égalisation du PSG, même pendant la prolongation, de toute façon, un peu comme le Real à son époque, hein, 2017, 17, 18, ça va finir dans l'escarcelle du Paris Saint-Germain?
Sincèrement, non, j'étais pas trop dans cette optique-là. J'ai trouvé la résistance entre guillemets d'Arsenal assez intéressante, et moi je pense que le plan de jeu, même si au final ça n'a pas fonctionné exactement comme Arteta l'aurait voulu et qu'il a manqué un peu de joueurs techniques quand même dans certaines positions clés. Sinon, donc j'étais plus dans une analyse autre déjà que de me dire bah ça y est, c'est gagné pour le PSG maintenant qu'ils sont revenus au score. Parce qu'une fois arrivé au tir au but, je me suis dit que Raya a aussi parfois été très bon dans les séances de tir au but. Et même si je savais que Safonov avait un peu la baraka et le PSG avait gagné les cinq dernières séries aussi de tir au but. Donc il y avait peut-être un petit avantage pour eux, mais non, je voyais pas trop ça comme ça. Et puis finalement, j'ai aimé le contraste entre les deux équipes. J'ai aimé que le PSG a cherché cette victoire dans le sens où ils ont dû beaucoup plus batailler, par exemple, que la saison dernière contre l'Inter, qu'il a fallu trouver d'autres solutions dans un match qui était beaucoup plus fermé, bien sûr. Mais si tu ouvres contre eux, tu te fais punir. Si tu fermes contre eux, tu perds aussi. Si tu fais un peu des deux, comme Chelsea ou Liverpool, tu te fais punir aussi. Donc, j'ai trouvé finalement que cette victoire du PSG, elle était tellement complète dans tout ce qu'ils ont pu faire cette saison, finalement, et que les pires adversaires auront été Monaco et Arsenal en Ligue des Champions depuis le mois de janvier. Ouais, exactement.
Julien, c'est une question quand même qui se pose, parce que je pense que ceux qui nous écoutent se demandent comment Arsenal est traité en Angleterre après cette défaite. Arsenal très critiqué en France, je ne sais pas si tu l'as vu à distance forcément, pointé du doigt. Le PSG valorisé, il y a des stats folles, évidemment, 24,7% de possession, un joueur comme Odegaard qui touche 12 ballons en 36 minutes, un Arsenal qui réussit 196 passes pendant que Vitinha en réussit à lui seul 141. Est-ce que tu penses que Arteta a épuisé sa méthode? Est-ce qu'il va la faire évoluer ou rester sur ce qui lui a permis d'être champion d'Angleterre enfin?
Alors, il y a plein de choses dans ta question, parce que son style de jeu a évolué dans la saison déjà. Je l'ai répété assez souvent.
Par rapport à ce qu'il a produit ces derniers mois, surtout.
Voilà, les derniers mois, oui, mais les derniers mois, ça peut s'expliquer encore une fois par un coup de moins bien, un peu de la fatigue sur certains joueurs, notamment Zubimendi par exemple, d'autres qui reviennent de blessures comme Saka ou Odegaard. Quand tu perds un joueur comme Timber, quand Timber est entré en jeu, on a vu la différence tout de suite par rapport à Mosquera. Mais il pouvait pas débuter, c'était pas possible. Donc il y a d'autres choses que tu peux aussi, avec quoi tu peux expliquer un petit peu le changement ou l'évolution tactique, on va dire, ou dans les initiatives ou dans la volonté de ce que Arteta a voulu faire. Moi, je continue à dire que contre cette équipe du PSG, on l'a vu avec Chelsea à la Coupe du Monde des clubs, c'est finalement la meilleure tactique à employer. Alors tout le monde peut pas le faire, c'est sûr. Il y en a d'autres qui voudront jouer comme le Bayern, et il y a des jours où ça passera. Mais si tu ouvres contre le Bayern, encore une fois, tu offres au PSG tout ce qu'ils aiment. Donc je pense que le plan de jeu était pas forcément le mauvais au départ. Le but très tôt de Havertz en fait amplifie un peu ce côté négatif de bah maintenant on va défendre, parce que maintenant on mène au score, donc on va faire ce qu'on avait prévu de faire, mais encore plus défensivement et puis encore plus, et ça c'était très compliqué pour eux. Tu peux pas défendre contre cette équipe là pendant 84 minutes. C'est pour ça que je pense que dans certaines zones du terrain il aurait fallu un peu plus d'habileté technique chez certains joueurs d'Arsenal. Par exemple, moi j'aurais fait jouer Calafiori et pas Incapié, j'aurais mis Eze à gauche et pas Trossard, pour justement avoir la densité mais en plus la qualité technique pour pouvoir au moins rivaliser à la récupération du ballon avec le PSG. Il a fait d'autres choix, voilà, j'ai rien contre ce qu'il a fait, encore une fois, je peux très bien le comprendre. En revanche, il a très vite compris que là, ça aurait pu marcher peut-être ce soir-là, mais que de toute façon, la saison prochaine, il fallait faire autre chose. Je pense qu'ils vont investir cet été assez lourdement, entre guillemets, ils vont vendre beaucoup, ils vont acheter beaucoup aussi, enfin, en tout cas, ils vont acheter sûrement cher certains, mais en tout cas, je pense qu'ils sont très... conscients de ce qu'ils doivent aller chercher. Par exemple, tout de suite, une des premières réponses de Arteta en conférence de presse après le match, c'est il nous faut un moment. Alors, il n'a pas dit quel côté, mais c'est sur le côté gauche. Oui. Un joueur qui, en 1 contre 1, va pouvoir faire des différences. D'accord. À lui tout seul. En gros, un Kvaratskhelia, ce genre de joueur-là. Parce qu'on l'a bien senti samedi, que ça manquait beaucoup dans ce que Arsenal pouvait faire dans la configuration tactique qu'ils avaient choisie.
Bon, et déjà en demi-finale, par exemple, hein, je me souviens face à l'Atlético, c'était frappant, c'était terrifiant de voir autant, et particulièrement sur le côté gauche. Je me souviens par exemple de Martinelli au match aller au Metropolitano. Il prend la balle, il revient vers l'arrière, et tu dis mais si t'as quelqu'un qui vient provoquer, créer quelque chose, ça va être beaucoup beaucoup plus intéressant. Et c'était un manque qui, je trouve, est très très facilement identifiable, même quand tu regardes quelques gros matchs d'Arsenal. Ça saute aux yeux, je trouve, par rapport aux autres grandes équipes européennes cette saison.
Il y a un nom qui sort du chapeau ou pas? On parlera de Yann Diomandé, qui lui préfère jouer à droite, même s'il joue à gauche à Leipzig. Il y a des noms qui sortent déjà ou pas, Julien?
Oui, bien sûr. Alors, un joueur comme Gordon, par exemple, c'est un joueur qui était apprécié du côté d'Arsenal, qu'il a choisi le Barça plus que le Bayern ou qu'Arsenal. Et voilà, bon courage à lui, on verra ce que ça va donner. Aussi, un joueur comme Mika Götze, dont on parle beaucoup, qui est encore un très jeune joueur. C'est pas la solution forcément, mais en termes de dribbleur cette saison, dans les sept grands championnats, on va dire, si on inclut le Portugal et les Pays-Bas, il est tout en haut en termes de dribble réussi, par exemple. C'est un joueur qui est très excitant, qui peut faire des différences comme ça dont parlait Arteta. Un joueur comme Barcola, bien sûr, aussi, parce que on sait pas trop ce qui va se passer pour lui au PSG. C'est un joueur qui est suivi par beaucoup de grands clubs, notamment en Angleterre, parce qu'il plaît beaucoup, beaucoup. Son profil plaît beaucoup en Angleterre, malgré les problèmes à la finition, comme on l'a encore vu samedi dans la finale. Donc, ils ont plusieurs options. Un Morgan Rogers, un Julian Alvarez. Alors, c'est des joueurs différents, ça, mais pour renforcer, en tout cas, cette ligne d'attaque, t'as aussi d'autres profils qui vont aller chercher. Et je pense qu'ils sont tout à fait conscients des progrès qu'ils ont à faire encore avec ballon, notamment comme ça, en fin de saison, quand tes organismes sont compliqués. Parce que l'autre, juste pour finir sur comment nous, on a vu comme la finale a été vue depuis l'Angleterre, les gens se demandent, est-ce que Luis Enrique pourrait faire ça avec un club anglais? Vu les demandes physiques de la Première Ligue sur 38 journées, sans trêve hivernale, choses comme ça, est-ce qu'il serait capable de jouer ce football-là, en fait, en Angleterre? Et c'est la grande question. Et de toute façon, on le saura, parce qu'un jour, il viendra inévitablement ici.
Ah bon?
D'ailleurs, samedi, quand... Pardon?
Tu penses?
Ah, moi, j'en suis convaincu, ouais.
Ah oui.
Même lui aussi, hein, il le dit tout le temps, qu'il adore la Première Ligue, il a appris l'anglais pour venir entraîner en Première Ligue. Et d'ailleurs, dès que Slot a été viré de Liverpool, les gens que j'ai rencontrés au stade en arrivant, on était arrivés très tôt, nous, tout le monde me disait, ouh, Liverpool, Luis Enrique, est-ce que c'est possible? J'ai dit, calmez-vous, relax, déjà, tout le monde va se calmer. Mais dans 2 ou 3 ans, à mon avis, quand il aura fait tout le tour du projet parisien, je pense qu'il viendra en Première Ligue.
D'accord. Intéressant. Bon, Daniel, chez toi, comment on a regardé ça, justement? Qu'est-ce que ça raconte, le sacre du PSG depuis l'Italie? Est-ce que, on a l'impression de voir le multivers, le futur, ou le passé, peut-être, de l'Italie?
Non, ça, c'était plutôt pendant le match entre le PSG et Bayern Munich. On avait souligné la distance de qualité technique et athlétique. Non, on a beaucoup parlé de l'attitude d'Arsenal. On l'a un peu mis dans les mêmes chapeaux des équipes italiennes qui font du catenaccio, qui défendent. Moi, je suis pas d'accord, hein. Moi, ça, c'est la lecture des social networks et aussi un peu dans la télé, dans les journaux où ils ont un peu quand même souligné le fait qu'Arsenal, ils ont pas beaucoup essayé. Moi, je pense que, en tout cas, on a vu quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas juste une question d'attitude, c'est-à-dire faire bloc bas ou moyenne contre une équipe comme PSG. Mais Arsenal, ils ont aussi défendu en regardant la zone, l'espace. Ça, c'est une grosse différence. C'est pas des marquages individuels, comme même en Premier League, on en a vu beaucoup. Cette saison, même, pas Guardiola, mais l'assistant de Guardiola, je me souviens pas comment il s'appelle, le deuxième Pep, il a parlé de fait que même en Premier League, il y a beaucoup de marquages individuels. Et ça crée des problèmes à la construction du jeu quand il part du gardien. Mais la défense, comme ça, en bloc, en regardant les espaces, très solide, très solidaire et très attentif, ça demande une concentration de folie. Moi, je pense, un peu une nouveauté à cet stade-là de football. Et ça montre les biens. Parce que Arsenal, je pense qu'ils ont très très limité Paris, même si peut-être le Paris Saint-Germain, ils n'étaient pas dans leur meilleure journée. Mais après, ça a montré aussi qu'effectivement, tu peux pas garder cette concentration tout le match. Ça suffit un petit moment où tu es un peu en retard avec Mosquera et voilà, et un petit 1-2 de Kvara et Dembélé, et ils sont passés. Mais effectivement, pour longtemps, le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas eu la solution au problème que Arsenal leur montrait.
Tout à fait. Vas-y, Polo.
Oui, il y a juste une chose quand même qu'il ne faut pas oublier. C'est quand tu, il y a le côté sportif, mais il y a ce qui s'est passé à Paris aussi, des violences.
Bien
et
sûr.
En Allemagne, il y a un article sur deux qui parle des violences quand même. Et l'image, de, je crois que vous ne vous rendez pas compte du côté allemand, l'image qu'a la France en ce moment dès qu'il se passe quelque chose. Évidemment très populiste aussi dans certaines interviews qu'on voit en Allemagne, comme quoi il ne se passe jamais rien en Allemagne, mais par rapport à la France, en gros, c'est presque une guerre civile.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a les mouvements populistes européens qui sont emparés des images. Oui. Pour appuyer là-dessus également. Non, il ne faut pas nier la réalité. Mais c'était une récupération politique.
Dommage ou dramatique, c'est que lorsque tu vois un incident qui se passe dans des piscines berlinoises, par exemple, tout de suite, la référence au niveau de la violence dans les piscines en Europe, c'est la France. Donc il faut aussi se rendre compte un petit peu de l'image qu'on est en train de véhiculer à l'étranger. Voilà, c'est aussi quand même... On devrait ne parler que de la qualité technique du PSG. Mmh. Et en fait, 50% des articles, c'est des problèmes sociétaux donc ou des questions sociétales. Donc moi, je trouve ça assez dramatique quand même que la presse allemande, je sais pas comment ça se passe dans vos pays respectifs, ne parle quasiment que de ça, alors qu'on devrait s'intéresser à ce que le PSG est capable de faire...
Je vais poser Daniel Echeto, est-ce qu'on en parle beaucoup des violences post-finale, même pendant la finale ou pas en France?
Oui, mais c'est très polarisé, c'est-à-dire c'est les journaux de droite et les personnalités sociales de droite qui
font pour ça. Appuyer leur discours, quoi, c'est ça.
Oui, moi, il y a eu aussi des très belles photos, des très belles scènes, des très belles vidéos, des très beaux vidéos. Après, forcément, c'est une grande ville, il y a des problèmes comme partout. Mais voilà, moi je veux aussi de belles choses, même en Italie. Hein.
Bon, en Angleterre, en tout cas, il y a quand même une parade assez folle pour le titre de champion aussi, Julien, malgré la défaite contre le PSG.
Ouais, incroyable, elle était prévue depuis longtemps, avec un trophée ou deux s'ils avaient gagné la Ligue des Champions, forcément. On attendait beaucoup de monde déjà, parce que rappelez-vous, on avait vu des scènes de liesse assez incroyables autour de l'Emirates, le mardi soir où ils sont champions après le match de City à Bournemouth, le dimanche après le match de Crystal Palace où ils ont le trophée, mais bon, forcément, tous les supporters ne pouvaient pas être au stade de Crystal Palace l'après-midi, donc ils s'étaient tous réunis. Donc on s'attendait à ce qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait beaucoup de monde, etc. Je pense que personne ne s'attendait à une marée rouge de la façon dont on l'a vu dimanche après-midi. C'était juste incroyable. On parle entre 1 million et 1,5 million de supporters qui étaient là dans les rues du nord de Londres. C'était incroyable à voir. Vous avez qu'à voir les vidéos sur les réseaux sociaux. Il y en a notamment... certaines où tu vois à un moment la densité de gens à certaines croisements de rue qui est juste phénoménal, quoi, avec du rouge partout des gens qui sont montés sur les toits.
Malgré tout, la saison est réussie pour Arsenal, il faut le rappeler. Évidemment, il y a le retour d'un sacre enfin en Première Ligue. Cette défaite avec des champions atténue pas totalement, mon cher Julien, la joie d'avoir enfin récupéré un titre en Angleterre, quoi.
Ouais, non, bien sûr, l'objectif du début de saison, je l'ai souvent répété, c'était d'être champion d'Angleterre. Donc ça, tu l'avais réussi, ta saison a été réussie quoi qu'il arrive. Après, oui, si t'avais pu faire un doublé historique, magnifique, pour la première fois, remporter la Ligue des Champions pour le club, ça t'aurait amené encore une fois dans une autre dimension. Mais le dimanche, il n'y avait que des sourires partout, il y avait cette joie de la Première Ligue. 22 ans, c'est long pour un club comme Arsenal. Tu te rends compte de la puissance de l'amour que les gens ont pour ce club dans Londres, mais pas que dans Londres. T'as des gens qui ont traversé l'Atlantique pour venir, il y avait des gens qui étaient venus de partout, t'avais toutes les générations, toutes les couleurs de peau, toutes les orientations religieuses, tout ce qu'on voulait. C'était incroyable, sincèrement. C'était tellement beau à voir, mais même si vous n'êtes pas sur d'Arsenal, bon, alors après, à part les NE, bien sûr, mais sinon, de voir un club communier avec son public de cette façon-là, et encore une fois, c'est pareil pour le PSG hier à Paris, pour ceux qui gagnent dans leur club, le Barça, on a vu une très belle parade aussi chez Edgar, enfin voilà, c'est pas que Arsenal, mais là, c'est vrai que le nombre de gens qui avaient tellement attendu dans toutes les fenêtres autour du stade, il y avait des drapeaux, des écharpes, des serviettes, tout ce que vous voulez, c'était juste phénoménal, c'est bravo, et bravo à eux, ils l'ont fait. Le plus dur maintenant commence dans un sens, pour rejoindre ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, Nico, dans l'évolution, dans la progression encore de cette équipe, d'Arteta lui-même, en tant que jeune entraîneur, encore une fois, on a vu peut-être un petit peu aussi dans ces changements, par exemple, la différence avec Luis Enrique, puisque quand Hincapié se blesse à la fin, ben voilà, il a fait tous ces changements, il les a fait en même temps en plus, donc c'était peut-être des choses qu'il va apprendre, et je pense qu'ils vont beaucoup apprendre de la défaite de samedi en Ligue des Champions, mais cette parade, elle était vraiment magnifique à voir et à suivre.
Pour être tout à fait complet, également émaillé par les incidents, avec 6 personnes qui ont agressé à l'arme blanche, en marge des célébrations du titre. Voilà, exactement, une fois que la majeure partie de la foule était rentrée chez elle déjà.
Il y a un truc et un mot qu'on n'utilise plus du tout, qu'on a connu, et même, je pense, certains chez vous, vous en faisiez partie, c'est La question, est-ce que c'est on a un retour du hooliganisme ou est-ce que c'est autre chose?
Alors, tu peux l'appeler différemment. En tout cas, ce qui s'est passé à Paris après en marge de la finale et après la finale, c'est pas du hooliganisme.
La Coupe de France,
c'est dur à qualifier. Comment?
La Coupe de France, pas la finale de la Coupe de France entre les Niçois et les Parisiens, la bagarre.
Oui.
Tu vois ce genre de scène là.
Ça oui.
Ensuite, on a eu encore cette saison là
dans les divisions inférieures, mais on disait dans les années 80-90, on rappelle quand même que l'Angleterre, enfin le Royaume-Uni a été interdit de Coupe d'Europe suite aux Wesel de 85 pendant 10 ans, faut pas l'oublier ça quand même. C'est pas de jeter la faute sur les sur la Grande-Bretagne, parce que les Allemands avaient beaucoup de problèmes, les Néerlandais évidemment, il faut se rappeler la finale de 75 au Parc du Bayern au PSG, ce qui se passe hein, c'est pas neutre. Donc moi j'aimerais vraiment que les spécialistes nous expliquent ce qui se passe, si ce sont vraiment des gens qui sont entre guillemets supporters du PSG, parce que beaucoup de personnes aujourd'hui se revendiquent supporters du PSG, et j'ai envie de donner une petite anecdote à côté. C'est on dit souvent que les anarchistes sont des individualistes, mais tous les individualistes ne sont pas des anarchistes. Et moi, ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est quelle est cette violence aujourd'hui dans la cité, d'où elle vient, pourquoi, comment. Est-ce que on explique ça? Et je trouve qu'il y a relativement des personnes, et comme le dit très bien Daniele, qui s'expriment d'un point de vue politique. Mais moi, je préfère écouter les sociologues d'une façon qui m'explique ce qui s'est passé depuis 40 ans, pourquoi,
bien sûr.
Comment, et le remettre en perspective.
Retour d'une appétence à la violence, en tout cas, mais elle est hétérogène, hein, Polo, j'ai l'impression. Il y a plusieurs sources. Hein.
Ah, mais je pense que oui,
partout,
je suis d'accord.
Hein, tu vois.
Mais parce que moi, pendant 30 ans, on m'a dit, l'hooliganisme des années 80, 90, c'est fini. Ah bon, en Allemagne, il y en a, hein, je peux t'assurer. Hein. Mais il y a aussi de plus en plus de personnes dans les stades. Donc, en pourcentage, il y a forcément plus de violence. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Quand tu as 50 000 personnes qui sont dans un stade et 1% de compte, ça fait toujours 500 personnes. Mmh. Quand tu en as 10 000, ça fait 100. Hein. Donc, c'est ça. Et je trouve qu'on a relativement peu d'explications rationnelles.
Tout à fait.
Ce qui ne veut pas dire qu'il faut excuser. Mais moi, je trouve qu'on a un travail à faire.
Ce qui est terrible, c'est qu'on savait avant même qu'il y aurait des violences. Désormais, c'est une sorte de fatalité. Voilà. Ça arrive comme beaucoup l'avaient prévu, malheureusement. Bon, bref, c'est un débat qui mériterait beaucoup d'heures sur RMC. Ou ailleurs, et du temps avec des gens encore plus compétents, des sociologues par exemple. Voilà pour les festivités, notamment le titre du PSG en Ligue des Champions. Maintenant, on va écouter la première minute de la soirée et c'est Polo qui garde la main. On envoie la musique, s'il vous plaît. Ah ben, ça va nous apaiser, dis donc, c'est super.
Voilà, c'était JBO. Stinkerfinger, un doigt d'honneur. Pourquoi? Alors, vous savez très bien que dans quelques jours, elle va commencer une Coupe du Monde aux Amériques et notamment aux États-Unis. Et moi, évidemment, qui dit Nationalmannschaft aux États-Unis, me rappelle 1994 avec un événement qui est très, très important. Nous sommes à Dallas. Donc au Texas, l'Allemagne, la Nationalmannschaft, qui, et ça on l'oublie complètement aujourd'hui, s'est revue en Allemagne, a peut-être l'une des plus grandes générations et tenante du titre de la Coupe du Monde évidemment, qui est sur le terrain et sur le banc, peut-être un peu vieillissante mais extraordinaire. On a des Hammer, on a des Matthäus, il y a des Guido Bourval, il y a Klinsmann qui est en feu, Riedle, etc. Il y a Hassler, enfin c'est une équipe monstrueuse. Et puis il joue la Corée du Sud, évidemment, mi-temps 3-0, tranquille. Sauf qu'il y a un petit problème aux États-Unis, c'est qu'il fait super chaud. Et ça coupe les pattes des Allemands en seconde période, qui se font remonter 3-1 puis 3-2. Mmh. Et Bertie Fauque, le sélectionneur, en a un ras-le-bol. Donc il voit que Stefan Effenberg n'est pas content de. Enfin, Bertie Fauque n'est pas content de la performance de Stefan Effenberg, qui en plus a pris un deuxième carton jaune, donc il est suspendu pour les huitièmes de finale. Donc il le sort. Et Effenberg se fait huer par les supporters de la Nationalmannschaft à Dallas. Et que fait-il, ce cher monsieur? Il fait un doigt d'honneur. Il en fait même pas un, il en fait deux en fait. Parce qu'il y a très peu d'images de l'époque. Et il est par la suite exclu de la sélection allemande et il va retourner directement en Allemagne. Il va s'occuper de la Fiorentina qui à l'époque est en seconde division, et ce sera l'un des plus gros scandales de la sélection allemande, puisque Bertie Vogt ne supporte pas ce genre de geste. Et donc moi, c'était juste pour préparer la Coupe du Monde que je parlais de ce doigt d'honneur qui moi me fait
peut-on
toujours
rêver. Peut-on encore voir ce genre de geste dans la Nationalmannschaft? C'est la question, Polo. Est-ce qu'un joueur est capable
aujourd'hui la sélection allemande, ce sont des Bambi, quoi. Enfin, c'est à l'image du football. Moi, enfin, Uli Stein qui traite son sélectionneur Beckenbauer de guignol et qui est forcé de rentrer aussi.
Oui, mais non,
moi, en 86, ça me plaît beaucoup plus. Aujourd'hui, c'est autre chose. C'est très, très différent. Mais en tout cas, voilà, en 94, au Cotton Bowl de Dallas, Effenberg fait un doigt d'honneur aux supporters allemands, était exclu de la National Mannschaft. Et comme on est demain, un super documentaire, je pense, par rapport au trailer que j'ai vu, qui va nous parler de ça pour revisiter l'histoire de la sélection allemande pour ceux qui ont les chaînes allemandes.
C'était la minute historique de Paulo Breitner à une semaine un peu plus du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Dans un instant, on va parler Mercato, Gordon au Barça, quelle destination pour Ryan Alvarez, Konaté, Rabiot, Diomandé, la pépite ivoirienne qui affole l'Europe, bien sûr, Ibrahima Konaté également son avenir, je l'ai dit. On revient dans un instant avec les 4 drôles de dames sur RMC, à tout de suite.
RMC, 20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamin. Avec les 4 drôles de dames, Julien Laurence, Paulo Breitner, Daniele Manoucia et Edgar Grollo. On est ensemble jusqu'à 22h avant une deuxième heure, un spécial Coupe du Monde. Et puis on a pas eu le temps de le faire la semaine dernière. Vos 11 de vos 4 championnats, ils sont attendus. On les mettra également sur les réseaux sociaux. Alors, Mercato qui a commencé de manière spectaculaire il y a quelques jours seulement avec l'annonce de l'arrivée d'Anthony Gordon de Newcastle au FC Barcelone. 70 millions d'euros plus 10 de bonus. Première secousse du mercato estival avant même le début de l'été. Tiens, Edgar, question que je te pose, hein. Comment on a réagi à Barcelone? Est-ce qu'on se dit que c'était la priorité ou pas du tout de lâcher 80 millions d'euros pour Anthony Gordon? Sachant, précision importante quand même, que ça y est, hein, il n'y a plus de restrictions pour recruter côté barcelonais.
Oui, notamment que le plafond salarial, par exemple, pour la prochaine saison, a nettement augmenté. 81 millions d'euros de plus pour tout l'effectif, que Lewandowski part. Donc ça aussi, ça t'enlève un poids au niveau de la masse salariale. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Maintenant, est-ce que c'était la priorité numéro 1? Je pense pas. Je pense que la priorité numéro 1, c'est évidemment de remplacer Robert Lewandowski avec un vrai numéro 9. Maintenant, Gordon, qui peut aussi, je parle sous le contrôle de Julien, évidemment, mais jouer à plusieurs postes en attaque et notamment devant, mais qui est avant tout plutôt côté gauche. Je pense que c'est une recrue qui a du sens. Forcément, même si les restrictions de recrutement pour le Barça sont plus légères, on va dire, que sur les dernières années, ça veut pas dire qu'ils ont un budget illimité. Ils doivent cibler des profils et choisir. Et je pense que s'ils choisissent Gordon, c'est aussi qu'il y a une vraie volonté d'Hansi Flick. Et je pense que s'il y a une vraie volonté d'Hansi Flick, c'est parce que Gordon aussi, c'est quelqu'un qui peut leur apporter dans les efforts défensifs, parce que Hansi Flick a répété toute la saison que les problèmes défensifs qu'avait parfois le Barça venaient aussi des attaquants et venaient aussi des moments où le pressing était moins bien organisé, était moins bien fait et moins bien suivi par les différents joueurs, moins harmonieux. Et je pense que ça veut dire qu'il compte aussi sur cet aspect-là du jeu d'Anthony Gordon, c'est-à-dire les efforts défensifs. Et donc je pense qu'il valorise beaucoup ce côté-là chez Gordon. Et après, c'est aussi qu'ils ont dû avoir une opportunité de marché où ils ont vu qu'il y avait cette recrue qui était faisable, qui est, je pense, au-dessus d'un joueur comme Marcus Rashford. Ça s'est fait assez vite, ça a surpris par la vitesse du transfert. Maintenant, c'est quelqu'un évidemment qui peut apporter à cette équipe. Et on a vu aussi tout au long de la saison la volonté d'Hansi Flick d'avoir des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes, d'avoir des joueurs aussi qui des zones qui sortent de là où ils sont alignés dans le 11 sur le papier, comme Lamine Yamal, comme Rafinha, qu'on a vu souvent entrer aussi dans l'axe. Et je pense que cette recrue là va aussi en ce sens, voilà, parce qu'elle va donner encore plus de possibilités à Hansi Flick.
Si Gordon arrive, ça veut dire que Rashford ne sera pas conservé. Il appartient à Manchester United, je rappelle.
En tout cas, en termes de profil, ça me paraît compliqué, très compliqué. Quand même. Je pense que c'est clairement le remplaçant et un remplaçant plus. Hein. C'est au-dessus sur le papier aujourd'hui que Marcus Rashford, ou en tout cas, c'est plus bling-bling et c'est sa valeur marchande est largement supérieure à Marcus Rashford.
Ouais, il n'a pas très envie de retourner en première ligue, j'ai l'impression, Julien, Marcus Rashford. Il aurait surtout voulu rester à Barcelone. Est-ce qu'il va revenir à United ou être vendu? Qu'est-ce qu'on dit en Angleterre concernant son avenir?
C'est une bonne question. Alors lui, oui, aurait voulu rester. Je crois qu'il est d'ailleurs déçu que ça se soit pas fait. Parce que finalement, même sans faire une saison extraordinaire, c'est plutôt une bonne saison, même dans un rôle un peu de joker de luxe ou de remplaçant de luxe, on va dire, entre guillemets. Après, le problème de Marcus Rashford, c'est qu'il gagne 350 000 euros par semaine. Donc à un moment, il n'y a pas non plus beaucoup de clubs dans le monde qui peuvent se permettre de payer quelqu'un encore sous contrat 350 000 euros par semaine. Donc à un moment, c'est compliqué pour lui aussi, surtout s'il ne veut pas rester à Manchester United, parce que je pense que dans le cas de 3-1 de Carrick, il a peut-être plus de place à gauche qu'un Matheus Cunha par exemple, qui est pas du tout un joueur de côté, même s'il peut le faire et comme c'est un bon joueur, bah ça passe. Mais je sais pas si Carrick veut le garder même, et encore moins à ce prix-là. Donc on verra, mais ça peut se compliquer un peu pour Marcus Rashford, ou alors il peut être réaccueilli bras ouverts par Carrick par exemple et Manchester United, et pourquoi pas dans un sens avoir eu sa carrière se voir sa carrière se relancer à Barcelone et repartir, on va dire, sur des bases plus fraîches, on va dire, plus je sais pas comment on dit en français, mais tu vois, un fresh start quoi,
plus saine quoi, un nouveau départ,
voilà
quoi.
Exactement.
Bon, voilà pour Gordon
et
également,
mais juste pour finir sur Gordon,
qu'est-ce qu'il va réussir à Barcelone ou pas?
Alors moi je sais pas, c'est 3 buts, c'est 6 buts en championnat cette saison, dont 3 sur penalty. Hein. Donc c'est à dire que j'ai plein de défenseurs chez moi qui ont marqué plus que Anthony Gordon, qui a joué 26 matchs de championnat. Après, là où Elgar a tout à fait raison, c'est sur le pressing, il est monstrueux. Il est monstrueux, d'ailleurs il a parfois même pris des cartons rouges parce qu'il pressait tellement, il taclait dans tous les sens, il courait derrière le ballon autant qu'il pouvait. Donc ça, à ce niveau-là, ils seront pas déçus, c'était son rêve absolu. D'ailleurs, il a parlé dans un espagnol plutôt bon, j'ai trouvé, Edgar, lors de sa présentation. Ça c'est très bien, il va
vite. Ouais, ça a été très apprécié qu'il fasse l'effort.
Ouais, j'imagine, ouais. Et puis je pense qu'il était vraiment, tu sais, il était vraiment honnête en disant que c'était son rêve depuis toujours, un peu comme Kylian d'ailleurs. Donc il a appris l'espagnol dans l'optique d'un jour, il espérait jouer au Barça et en Espagne, quoi. Donc bravo à lui, mais après il a quand même beaucoup de travail à faire devant le but notamment, parce que la saison dernière c'était quand même très laborieux.
Bon, voilà pour oui, quelqu'un voulait réagir?
Ouais, enfin je crois, à ma connaissance, mais il faudrait vérifier si nos auditeurs sont des spécialistes de ça, le dernier anglais à part Rashford, c'était pas Gary Lineker à Barcelone, donc ça commence à dater. Donc le profil de la nationalité, moi, me perturbe toujours un peu, parce qu'il y a des ADN dans les clubs quand même. Et à ma connaissance, alors à l'époque en plus c'était Venables, je crois, le coach de Barcelone.
Donc,
il y avait quand même une filière, et c'est pas tout à
qu'est-ce
fait.
Qu'est-ce qui te perturbe, Polo? Qu'est-ce qui te perturbe? Pardon, finalement? Qu'est-ce qui te perturbe à l'heure de la mondialisation?
Ben,
même les Anglais partent.
C'est pour ça.
C'est quoi?
Non, c'est que je suis pas persuadé qu'il y a des nationalités qui réussissent partout.
Ah bon?
Je suis pas persuadé qu'on réussisse à Barcelone en venant de première ligue, par exemple, par rapport au style de jeu.
Très intéressant,
etc.
Ça. Rappelez-vous, Michael Owen au Real Madrid, ouais. Même Gareth Bale, tout ça, c'est pas toujours garanti.
Tu considères que David Beckham a plutôt réussi au Real, plutôt réussi quand même, non?
Ouais, mais on a plein de contre-exemples aussi pour aller dans le sens de ce que dit Paul.
Ouais.
Surtout chez les Anglais, qui n'aiment pas partir de leur île de toute façon. Donc.
Ouais. Et j'ai l'impression, Julien, quand même, qu'il y a une tendance sur les dernières années où on voit quand même de plus en plus de joueurs anglais. J'ai eu la sensation, en tout cas, hein, de voir plus de joueurs anglais s'exporter. Alors c'est pas aussi massif, par exemple, évidemment, c'est très loin des standards français ou même d'autres pays. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voyait déjà encore moins il y a 10 ans, peut-être.
Ouais, mais après ils ont enfin compris que ça, c'était très bénéfique d'aller à l'étranger, de connaître d'autres choses, d'autres cultures de foot, d'autres pays de foot, parce que pour trop longtemps ils sont restés auto-centrés sur leur première ligue à eux, donc c'est enfin la bonne chose, et c'est ça a démarré d'ailleurs par les jeunes joueurs qui sont partis un peu partout à droite à gauche, parce qu'ils considéraient qu'ils avaient moins de possibilités de jouer en première ligue dans les grands clubs anglais, et ça part de là, et puis après d'autres ont suivi.
Ou alors des très gros clubs type le Real, hein, qui arrivaient à shipper des stars au club anglais. Bah, McManaman a plutôt réussi au Real, par exemple, Steve McManaman. C'était plutôt correct, également. Après, j'ai pas pléthore d'exemples, hein. Si on parle de l'axe anglo-espagnol, en Allemagne, évidemment, il y a un exemple, mais ça a réussi plutôt. C'est Harry Kane, mon cher Polo, hein. On a eu Jude Bellingham aussi, plutôt.
Peu anglais, comme dit Daniel.
Bien sûr, Bellingham.
Jude Bellingham.
Bon, Alexander Arnold, c'est pas encore ça pour l'instant.
Toujours pas, non. Pour l'instant.
Mais tu vois, Michael Owen, par exemple, je sais qu'on n'a pas trop le temps, là.
Vas-y.
C'est fascinant. Non, mais c'est fascinant parce que il s'est jamais fait à la vie madrilène. Alors, faudra m'expliquer.
Oui, alors, c'est ça la raison, peut-être.
On a souvent eu des débats avec lui, puisqu'on travaillait ensemble à la télévision anglaise. On lui disait, mais comment tu ne peux pas t'adapter à la vie madrilène? Enfin, c'est impossible, tu vois, même pour un anglais. Comment tu peux pas aimer une ville où t'as quand même beaucoup plus de soleil que chez toi, où la nourriture est bien meilleure que chez toi? Bon, la musique, si t'as pas envie de l'écouter, bah, mets tes musiques anglaises chez toi, mais et pourtant, il a vécu à l'hôtel. Tout son temps au club, il a même jamais vécu dans une maison. C'est pour vous dire à quel point le gars, il se sentait vraiment pas bien. Au Real Madrid, t'es ballon d'or. Tu joues au Real Madrid, t'habites à Madrid, t'as un salaire monstrueux, et pourtant, t'arrives jamais à t'adapter à cette ville-là. Moi, je comprends pas, quoi. Mais après, bon, des fois, il fait des trucs un peu bizarres.
Ah oui, c'est vrai, exemple.
Et par exemple, il aime pas le cinéma, il regarde jamais des films.
Ah oui, d'accord, intéressant ce thème-là, d'accord, ok. Pourquoi
il
pas,
a vu 5 films dans sa vie. Donc, à un moment.
Mais qu'est-ce qu'il anime, ce garçon, Michael Owen, là? C'est.
Les chevaux. Il adore les chevaux. D'accord. Non, mais il est très sympa, hein.
Ah oui, mais
beaucoup avec
pas.
Lui.
Non, mais c'est vrai, vu 5 films et c'est Kurosawa, ça va, quoi.
C'est très sélectif, ouais.
C'est toujours pareil.
Tu vois.
D'accord, maman, j'ai raté l'avion le 1, le 2, quoi. J'ai raté l'avion. Et puis après.
Et encore, ouais.
Oui,
encore.
D'accord.
Mais non, mais tu vois, c'est fascinant. Mais... Alors, c'est pas sa personnalité, en fait. Il aurait jamais dû bouger de l'Angleterre. Lui, il était pas fait
c'est
comme ça.
C'est un casanier, quoi. Voilà, beaucoup. C'est ça.
McManahan, ouais. Par exemple, aujourd'hui, il habite en Espagne. Il adore l'Espagne. Il est plus espagnol que Scouser, même. Il adore ça. Et puis, tu le vois, on était encore ensemble à la finale, parce qu'on, encore une fois, on travaillait pour la même télé aussi. Il était habillé, mais genre, il était à Madrid, quoi. C'est fascinant à voir comment lui, en revanche, l'inverse d'Owen, s'est fondu complètement dans la vie. Il a épousé la vie espagnole et madrilène encore plus, tu vois.
Intéressant. Très bon débat à mener, à prolonger, bien sûr. Si vous avez des idées pendant la pub, hein, de joueurs anglais qui ont vraiment réussi à l'étranger, n'hésitez pas à nous les faire partager. Avant qu'on continue sur le mercato, qu'on parle de Vuskovic avec Polo, de Ibrahima Konaté avec Julien dans un instant. Deuxième minute de la soirée, elle est espagnole. On envoie la musique, s'il vous plaît.
Gloria, la gloire du duo Los Dioses. Ils viennent de Malaga. Sur la pochette de leur nouvel album, il y a un des deux qui porte le maillot de Malaga. Dans la chanson qu'on écoute, ils parlent de Malaga. Et donc ça veut dire qu'ils vont stresser. Ils vont stresser dans les prochains jours, puisque Malaga va jouer les playoffs pour monter en Liga. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces playoffs? Déjà le format, 4 équipes, demi-finale aller-retour, finale aller-retour aussi. Et parmi ces équipes, donc, celle avec l'histoire récente la plus importante, c'est Malaga qui a terminé 4e de saison régulière, quart de finaliste de Ligue des Champions en 2013 avec Toulalan, Isco, Montréal, Joaquin, on se souvient de cette génération-là. Et depuis, plein de problèmes financiers qui ont réduit les ambitions du club. Ils sont descendus en 2018, puis passés par la 3e division en 2023-2024. Et dans les prochains jours, ils peuvent retrouver leur vraie place, c'est-à-dire la Liga, puisqu'au classement historique du foot espagnol, c'est le 20e club du pays. Ils vont jouer contre le 21e club historique du pays, Las Palmas, club des îles Canaries, qui essaie de remonter tout de suite. Vous connaissez leur meilleur buteur, hein, vous le connaissez tous, c'est Ressé, ancien joueur du Real et du PSG. J'aurais pu mettre l'une de ses chansons aussi, mais je voulais vous épargner ça. Et puis l'autre demi-finale, ce sera entre le 3e et le 6e, c'est Almeria contre le CD Castellón. Les Andalous d'Almeria arrivent peut-être en tant que favoris, puisqu'ils ont déjà ils terminent 3e, ils ont le meilleur buteur du championnat, Sergio Arribas, 25 buts. Ils ont le soutien en plus de Cristiano Ronaldo qui détient 25% du club. Et en face, ils vont retrouver l'équipe qu'on attendait le moins à ce niveau-là en début de saison, le CD Castellón. C'est un club de la région de Valence, collé à Villarreal, qui n'a plus disputé la Liga depuis 1991. Son effectif vaut deux fois moins que celui d'Almeria. C'est que le 14e effectif de Segunda en termes de valeur marchande. Donc c'est déjà une saison réussie pour eux. Voilà, rendez-vous samedi pour le début des playoffs.
Malaga, l'ancien club de Jérémy Toulalan, bien sûr, qui ne doit pas nous écouter ce soir, puisque
il leur aura rendu visite il y a quelques mois. Il est toujours attaché au club.
Jérémy Toulalan, d'accord, ok.
Ouais, ouais.
Intéressant.
Bon, en tout cas, il était invité du club. Il a rendu visite. Il a serré la main de tous les joueurs dans le vestiaire, etc.
Voilà pour ta minute, mon cher Edgar. Dans un instant, la suite, c'est notre page mercato européen, bien sûr. On va parler des coachs aussi, Allegri, Iraola, Slot, Hutter, avec les quatre drôles de dames. Reste avec nous, RMC 20h40.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain. Avec les quatre drôles de dames, on en sort jusqu'à 22h. L'After prend le relais comme tous les soirs de 22h à minuit en direct de Valenciennes. Dernière tournée des 20 ans de l'After. Alors évidemment, on a beaucoup de propositions, les amis, sur le chat YouTube des joueurs anglais qui ont réussi à l'étranger. Bien sûr, le Bicéleste nous dit comment oublier Waddle à Marseille, notamment. Moi, j'avais noté également de mon côté Glenn Hoddle à Monaco, quand même, si on compare. John Collins aussi à Monaco, d'ailleurs, pour ce qui est de la France.
John Collins, pas anglais, attention. Hein.
Écossais.
Très important.
Oui, mais. Voilà, très différent.
Non,
pour toi, très différent. Rien à voir pour toi, très différent.
Par exemple, les Écossais s'exportent beaucoup plus dans le sens où dans leur championnat, eux, si tu veux, surtout maintenant, encore plus qu'à l'époque de John Collins.
Oui, obligé de bouger, quoi.
Ouais. Voilà, tu vois. Mais un Chris Waddle, par exemple, quand Chris Waddle vous raconte les histoires de son arrivée à Marseille, c'est fascinant. Mais Chris Waddle, à l'Euro 2016, par exemple, on était en tribune de presse pour descendre sur le terrain parce qu'on avait un truc à faire pour la télé sur le terrain. Mais sincèrement, j'ai cru qu'il allait jamais y arriver. Tellement. Au Vélodrome, avant le France-Allemagne, la demi-finale au Vélodrome. Sincèrement, je vous jure, j'ai cru qu'il allait jamais y arriver. C'était impossible. Il pouvait pas faire un pas sans qu'on l'arrête, qu'on lui parle en français, alors qu'il comprend rien en France. Enfin,
oui,
il n'avait jamais appris français, vraiment.
Il est légendaire en France, bien sûr.
Non, mais ouais,
à Marseille, surtout. Oui.
Nico, on était en 2016 et il est parti en 93.
Oui, parce que
92.
Oui, parce qu'on le voit plus, on n'a plus de nouvelles. Et quand il réapparaît, c'est une apparition, quoi.
Mais je vous jure, c'est le passé incroyable qui à voir.
Ah oui.
Incroyable. Pour tous les Marseillais qui étaient là ce jour-là, qui nous écoutent, ils sauront très bien ce que je raconte. C'était hallucinant, sincèrement. Même lui était choqué. Hein. Même lui était choqué.
En Italie, il y a Rush à la Juventus, mais juste une année.
Qui après, je n'ai pas entendu.
Jan Rush,
bien sûr. Ouais,
dans les années 80. Et après, il y a eu Gascogne à la Lazio qui a.
Dans les années 90, il y a toute la génération qui va, les Plates, les Gascogne et tout ça.
Ouais.
On a eu Joe Cole à Lille, sans réussite, notamment. Pourtant, il n'était pas très loin de chez lui.
Joey Barton
plutôt réussi. Joey Barton à Marseille. Alors.
Il y a un Anglais qui a pas mal réussi à Hambourg dans les années 80, quand même.
Vas-y.
Aussi, avec les cheveux longs. Bah, pas mal, ouais. C'est vrai.
Vas-y, mais attends. Mais non, mais je l'ai même pas. Attends, c'est une catastrophe.
Bah, voilà. Là, toi,
oui,
franchement,
ça, oui, ça, c'est juste.
Anglais, ça, c'est juste. Hambourg, cheveux longs.
Bouclé, on va dire. Très long.
Ballon d'or, en plus.
Double ballon d'or,
même, ouais. Elle prend ta retraite.
Non, c'est terrible. Là, c'est terrible.
On va te reposer, t'es fatigué. Sur une plage bordelaise.
Surtout, ne le dites pas. Hein. Laissez-moi dans la mouise. Hein. Allez-y.
Bah oui.
Bon, bah écoutez. Qu'est-ce qu'il gagne?
Bah oui.
Qui gagne. Voilà. Très bien.
Sinon, on a alors Grève au Bayern. Sauf que c'est pas un véritable Anglais, puisqu'il a été formé en Bavière, en fait. Donc, c'est.
Puis les Canadiens, surtout, à la base.
Ah oui, au départ, il est Canadien en plus.
Ah, mais voilà, ouais. Polo, voilà, boum.
Alors, Trevor Stevens, voilà, tu vois, il y a des joueurs.
Lui, Ibrahima Konaté va quitter l'Angleterre, mon cher Julien, puisqu'on en parlait. Ou pas, d'ailleurs, hein, c'est officiellement terminé avec Liverpool, qu'il a annoncé aujourd'hui. Konaté, c'est 5 saisons, un titre en Premier League, une Cup, 2 Coupes de la Ligue Anglaise, il est en fin de contrat. Pourquoi on n'a pas trouvé d'accord? C'est une question d'argent, d'oseille seulement, mon cher Julien, ou l'envie de voir ailleurs un nouvel horizon pour Ibrahima Konaté?
Non, je pense que l'argent, oui, forcément, a joué un rôle dans ce revirement. Parce que rappelez-vous, il y a quelques semaines, et nous sur RMC avec Fabrice Hawkins, on l'annonçait aussi. D'ailleurs, même Ibrahima lui-même avait été plutôt clair en disant que l'accord était quasiment fait et que ça allait se faire. Et pourtant, ça s'est pas fait. Donc, je pense que oui, il y a eu un moment un problème dans les négociations qui ont duré pourtant longtemps entre son entourage et le club aussi. Je pense qu'il y avait une volonté chez Ibrahima et qui est tout à fait compréhensible de se sentir voulu par le club. C'est-à-dire que tu es devenu un joueur important, tu as 27 ans maintenant, tu es arrivé très jeune d'Allemagne, tu as progressé, même si la saison est un peu compliquée, mais elle est compliquée collectivement, pas juste individuellement pour Ibrahima Konaté, la saison à Liverpool. Elle est un peu plus compliquée, mais il y a quand même 2 ans, vous étiez champion, tu as été très bon. Et je pense qu'il a peut-être pas toujours non plus ressenti ça. Et du côté du club, on dira peut-être qu'il avait des demandes trop élevées aussi. En tout cas, il y a eu un problème quelque part, ça c'est sûr, parce qu'il y a eu un moment où lui voulait rester, le club voulait qu'il reste, et pourtant ça s'est pas fait. Donc même l'arrivée de Jérémy Jacquet, je pense, même si elle est très prometteuse pour Liverpool et ils sont très contents de l'avoir, et je pense qu'ils ont fait un très joli coup. Mais malgré ça, il y avait aussi une volonté double que Ibou reste au club. Et malheureusement, ce sera pas le cas.
Ce sera pas le cas pour Ibou Konaté. On va attendre de savoir où il va atterrir. Très demandé, bien sûr, y compris chez toi au Real, peut-être aussi, mon cher Edgar, pour Ibrahima Konaté. C'est parti des pistes possibles.
Oui, alors, en tout cas, sur le papier, je pense que n'importe quel défenseur central qui sait à peu près jouer au football, ça se prend aujourd'hui au Real Madrid. Et donc, évidemment, lui, non, mais c'est clairement, il pourrait avoir le niveau. Maintenant, j'ai l'impression qu'on parle un petit peu moins de cette piste maintenant que, par exemple, il y a un an où c'était un nom qui revenait beaucoup plus.
Daniel, quel sera le dossier chaud de l'été chez toi dans les prochaines semaines, là, concernant le mercato?
On est en train de parler des Rabiot, on est en train de parler de beaucoup de Milan, surtout parce qu'il manque tout, en gros, à Milan. Il manque les directeurs sportifs, les directeurs techniques. L'entraîneur, on a parlé de Iraola, et même si, voilà, c'était un peu bizarre parce que un des meilleurs entraîneurs sur le marché, pourquoi il devrait aller à Milan? En fait, il n'est pas allé à Milan. Là, il part de Ragnik, qui c'est quand même un entraîneur impliqué.
Oui, bien sûr.
Oui, il a la Coupe du Monde à faire avec l'Autriche. Mais il part de lui comme un rôle, plénipotentiaire, on dit en Italie. Il a beaucoup de pouvoir, plénipuissant, je ne sais pas comment on dit en français. Mais on part de lui avec, sur les bancs, après, un de ses élèves, peut-être Mathias Gesle, que c'est l'entraîneur de l'Al Ahly. Glasner, on parle aussi d'Olivier Glasner.
Mais qui va décider? J'ai l'impression que c'est Ibrahimovic qui va décider, ou qui va décider du nom du futur entraîneur du Milan, quoi. Parce qu'il n'y a que lui qui peut diriger aujourd'hui.
Voilà, oui, ils sont restés lui et Cardinale, et après il y a d'autres figures, mais moins importantes. Mais surtout, on ne comprend pas Aujourd'hui, là, hier, c'est pas, non, aujourd'hui, le Corriere della Sera, ils ont même fait un article pour dire que la fédération, la FIGC, la fédération italienne, elle a envoyé quand même un mail pour rappeler au Milan que dans toute cette chose à faire, il faut aussi inscrire l'équipe au championnat avant le 16 juin. Comme s'ils allaient oublier de faire ça. On sait pas si c'est vrai. En tout cas, le Corriere della Sera, le plus important journal italien, il a rapporté cette nouvelle. Donc, on comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Ibrahimovic, il va partir, il va faire le commentateur de la Coupe du Monde, il y a pas longtemps. Dans pas longtemps. Donc, c'est vraiment un autre maire. Et il y a pas de temps à perdre aujourd'hui. Léao, il a fait un post sur les social networks qu'il allait partir. La société apparemment elle s'est énervée. Donc il y a quand même de mouvement, mais c'est pas un mouvement dirigé par le Milan lui-même. Donc ça devient un peu chaotique et ça devient un peu problématique lorsqu'il y a d'autres équipes qui ont bougé vite. Deux fois bien, deux fois mal, on peut en parler. Naples, Allegri, Sarri, l'Atalanta, ou même Gattuso à la Lazio, et je trouve ça lunaire. Mais au moins, ils ont fait quelque chose. Tedesco, Domenico Tedesco à Bologne, c'est presque fait. Grosso à la Fiorentina, ils ont tous changé. Mais Milan, il reste, tu sais, les jeux avec les chaises musicales
exactement.
Voilà, on va dire il y a plus de fesses que des chaises là. Il y a plus de chaises que des fesses des fois, on dit aussi. C'est-à-dire il y a plus d'équipes.
Pour le Milan, ça serait extraordinaire parce que ça serait la deuxième. Si Ralf Rangnick arrivait, parce que ça serait la deuxième fois qu'il serait un candidat là-bas, et que la première fois déjà, alors que lui voulait tous les pouvoirs, c'est Maldini qui ne voulait pas. Et ça serait quand même extraordinaire parce que ça voudrait dire que ça n'a pas fonctionné. Le côté vieille école italienne avec Maldini, et que finalement en urgence on doit récupérer Ralf Rangnick, qui rappelons-le est en fin de contrat après la Coupe du Monde fin juillet si je me rappelle bien, et s'il arrive en plus, non, parce que lui en fait Rangnick normalement il veut plus entraîner de club, mais il a ses idées, on le sait, et s'il amène avec lui Matthias Hiesel, qui est quand même l'un des grands espoirs du football allemand, qui est passé par Liefering évidemment, puis Salzbourg, et débarque à Milan pour mettre en place ce qui s'est passé au Hoffenheim et au Leipzig, c'est génialissime au niveau du projet. Mais alors pour la culture italienne, attention, c'est pas tout à fait même chose. Ça peut aller dans le mur directement. Parce qu'il faut que la direction soit d'accord. Il faut que tout le monde, un peu comme Arrigo Sacchi avec Berlusconi à l'époque, lorsque les joueurs ont commencé à dire, Sacchi, il nous gonfle, quoi. C'est-à-dire, si la direction dit pas, on fait comme ça, et en plus, c'est du boulot sur plusieurs années, ça va dans le mur directement. Hein. C'est quand même assez, mais bon, c'est un scénario, hein. Pour moi, là, c'est dans de l'Uchronie, mais si ça arrive, je trouve ça assez exceptionnel et ça sera peut-être le plus grand projet européen, en tout cas le plus intéressant à mes yeux à suivre.
Non, mais alors c'est ça qui n'a pas marché la première fois. Après, c'est pas Maldini qui a fait faillir le projet Milan, parce que lui, il a été limogé il y a quelques années. Donc les supporters de Milan, ils regrettent surtout Maldini. Mais effectivement, la question, c'est s'il n'a pas marché parce qu'il avait trop de questions, il avait trop de prétentions, on va dire, la première fois.
C'est normal.
Oui, non, mais je veux dire,
les gens connaissent pas Rangnick, mais c'est quelqu'un de très spécial. Et si on me dit non, à la place,
je suis content. Hein.
Rangnick, mais... il s'occupe des chiottes jusqu'à les arrêts de jeu, les pénalties dans les arrêts de jeu. Il y a tout. Hein. C'est quelqu'un qui met son système.
On suivra ça dans les prochaines heures, même, hein, car ça va bouger du côté du Milan. Daniel, tu nous tiens au courant, bien sûr. On fait une pause, on revient dans un instant. On va prolonger et finir sur le mercato, parler des coachs, Arne Slot notamment, Iraola pour le succéder, Pierre Sage, Crystal Palace. Est-ce que c'est chaud? Là aussi, on va en dire un mot évidemment. Et puis à 18h, qui revient à l'Eintracht Francfort. Reste avec nous dans un instant, la deuxième heure avec les drôles de dames. Sur RMC, à tout de suite.
Génération After.